Radio Maria, le journal des diocèses.
Radio Maria, le journal des diocèses.
Radio Maria.
Bienvenue à ce journal des diocèses présenté par
Jonathan Ntamou.
Radio Maria.
Radio Maria, tout de suite, le titre.
Nous sommes très ravis de vous rencontrer, madame, messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici les fils rouges. Visite en France de la doyenne des facultés d'économie et développement de l'Université catholique du Congo. La professeure sœur Claudine Doumbi l'a effectuée à l'Université des Rouen, au Leurne, dans le cadre d'un colloque sur la digitalisation économique. Une visite qui suscite son admiration autour de la réputation de l'UICC à l'échelle mondiale, vous l'entendrez. Dans ce journal, on parlera aussi de la rencontre de Mgr André Giraud-Pindi avec le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'évêque de Matadi dit avoir échangé sur les doléances des populations en vue de la paix au sein de la province. Détail à suivre. Enfin, quelques témoignages sur le docteur Chantal. La présidente honoraire des Radio Maria sera portée en terre ce samedi. En attendant, ce soir, une messe est prévue à la paroisse Saint-Augustin. Bonsoir et bienvenue. Parlons d'abord de cette messe du mois de décembre 2025 qu'organise la Commission épiscopale pour les cultes divins et disciplines des sacrements. Dans cette note adressée aux abbés, pères, frères et sœurs, l'on signale que la célébration eucharistique aura lieu ce lundi 8 décembre 2025 à 7h30, heure de Kinshasa. Elle va se dérouler en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, dans la chapelle de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, mais ce qui va dire l'abbé Delphin Longuelo, stagiaire à la CEAJ, portera une intention des prières pour l'aboutissement heureux de la réunion ordinaire du comité permanent des évêques de la Senko et du projet du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Direction dehors des frontières, visite académique de la doyenne des facultés d'économie et développement de l'UICC au Leurne en France. La professeure sœur Claudine Doumbi l'a effectuée à l'invitation du directeur des Leurne, M. Vincent Lélé. C'est dans le cadre d'un colloque sur la digitalisation économique. À son arrivée, la doyenne de la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo a rencontré tour à tour mesdames Karine Mazarian et Marie-Laure, respectivement doyenne de la faculté des sciences économiques et directrice de l'école de doctorale. Les échanges ont porté sur des projets de recherche conjointes et la mobilité des doctorants et enseignants et le renforcement des capacités académiques. On l'écoute s'exprimer à partir de la France.
Écoutez, oui, effectivement, je viens d'effectuer une visite académique à l'Université de Rouen, Normandie, en France. Et bien, comment je suis arrivée là? Bon, écoutez, au mois de juin, j'ai participé au colloque de l'ATM à Toulouse. Et c'est là où ils m'ont repéré. On a gardé contact. Nous échangeons en ligne pour voir un peu est-ce que nous pouvons collaborer, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble comme projet de recherche. Et là, comme ils étaient en train d'organiser un colloque sur la digitalisation économique, et c'était l'occasion pour eux de m'inviter officiellement pour aller assister au colloque et après, voilà, parler de notre collaboration, de voir un peu quelles sont les pistes que nous pouvons explorer pour commencer cette collaboration. Bon, quant à l'ICC, qu'est-ce que l'ICC doit faire? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, ce que j'ai trouvé, bon, l'ICC est bien organisé aussi. Mais je pense que les infrastructures qu'ils ont, c'est comme ça, ce sont les pays développés, permet aussi de bien exercer son métier d'enseignant-chercheur. Et même pour les étudiants, bon, c'est ces bibliothèques gigantesques là. Les gens disent que non, c'est seulement en ligne. Non. Vous avez des bibliothèques pleines d'ouvrages et vous voyez les étudiants, chaque étudiant entre, il va, il a son badge, voilà, et puis il entre Il va s'asseoir, il a un ordinateur, et puis il va chercher un bouquin, il le lit calmement. Donc, ça, c'est ce que j'ai vraiment apprécié.
Voilà, on écoutait avec vous la sœur Claudine Doumbi, doyenne de la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo depuis France. En bref, lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 dans les secteurs paroissiaux. Nous sommes dans l'archidiocèse de Bukavu. La paroisse reine de tous les saints de Kamola a inauguré cela à travers trois messes. Tout a commencé mardi 25 novembre. La chapelle Ihembe du secteur Minja a accueilli la première Eucharistie, messe qu'a présidé l'abbé Wilfried Moulia Kem Ngwa, curé paroissial. Dans son exhortation, l'officiant du jour avait appelé les élèves et les enseignants à vivre cette année scolaire avec foi, discipline et recherche de l'excellence. La deuxième messe s'est déroulée le 2 décembre à Chibulungu, dans le secteur de Budodo. L'abbé Armel Kabego, président de l'Eucharistie, a insister sur l'importance d'une éducation intégrale fondée sur la foi, le savoir, le service et la fraternité. La dernière Eucharistie a, quant à elle, eu lieu le 3 décembre dernier, jour de la célébration de Saint François Xavier, patron des missions. La messe du secteur Cagnola a été célébrée à l'église paroissiale. L'abbé Kabego a rappelé que toute mission éducative porte du fruit lorsqu'elle s'enracine dans la foi chrétienne. À travers ces célébrations eucharistiques, l'Église locale réaffirme son engagement pour une formation humaine et spirituelle intégrée au service de l'éducation et du développement communautaire. De retour à Kinshasa, le lycée primaire du Collège des Sacré-Cœurs organise une journée culturelle. L'activité aura lieu jeudi 18 décembre 2025. C'est dans le cadre de la clôture du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Actuellement, les préparatifs du dit événement évoluent bien, a souligné la directrice de cette école des sœurs de la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et des Maries. La sœur Mifita Solange évoque en outre l'importance d'une journée culturelle. On l'écoute.
D'abord, l'importance est de promouvoir la diversité culturelle. Les enfants vont nous montrer leur créativité, tout ce qu'ils ont préparé pour cette journée-là. Par rapport à cette journée, nous avons prévu premièrement d'abord à donner un jeton aux élèves pour les droits d'entrée. Nous avons invité quelques écoles qui sont proches de nous parce que quand on est ensemble, il faut collaborer. Et d'autres choses, on a pensé inviter un artiste pour nous aider à rendre vraiment cette journée active. Et on a pensé à inviter Bébé Jusqu'à. Et les enfants l'aiment beaucoup. Et parfois, j'ai l'habitude d'encourager mes parents parce qu'on collabore bien. C'est juste pour leur dire qu'ils puissent nous aider afin que cette journée puisse bien se passer. Parce que seul, on ne peut rien faire. Et maintenant, là, je vois que la préparation, ça va. Les enfants se préparent bien et les parents nous aident à bien vivre cette journée. Et ce que je veux inviter aux parents de continuer à nous soutenir après ce qui reste. Et par rapport à cette journée, je peux dire que ça va déjà, ça marche. On est en train de faire tout pour que cette journée soit agréable. Et je veux prier aussi au Seigneur que les jours-là, ça ne puisse pas pleuvoir. Et que nous avons préparé des théâtres, des conférences, des danses pour que les élèves nous montrent à quoi ils sont capables. Et je sais que mes élèves sont capables de faire tout.
Voilà, vous avez écouté la sœur Solange Mifita. Sachez que les élèves de la sixième vont animer la conférence des circonstances. Quel en sera le thème? Pourquoi le choix? Quels avantages et désavantages? Écoutez leurs réponses au micro de votre radio.
Donc, je serai dit qui Angela, de la sixième année du Collège de Sacré-Cœur. Le thème de la journée est intitulé l'éducation environnementale. Laissez-moi vous rappeler quelques belles citations concernant l'environnement. 1. La terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la terre. 2. Les déchets les plus faciles à éliminer est celle que l'on n'a pas encore produit. 3. L'homme pue la nature, mais la nature finit toujours par se venger. Ce que nous devons comprendre est que l'homme et l'environnement doivent vivre en harmonie pour assurer la survie et le bien-être mutuel.
Je suis l'élève Zabanza Miglorifié de la 6e année du Collège de Sacré-Cœur. L'éducation environnementale est un processus d'apprentissage qui permet aux individus d'agir pour sauver la planète et son environnement. L'environnement est l'ensemble des éléments naturels et des éléments artificiels qui entourent et influencent le développement des êtres vivants et des activités humaines. Les éléments naturels sont l'eau, l'air, le climat, le sol, les plantes, les animaux. Les éléments artificiels, les aquariums, les maisons, les champs agricoles, les voitures, etc.
Je m'appelle l'élève Ketum Chagalou Sapréché de la 6e année au Collège des Sacré-Cœur. Nous avons fait le choix de ce thème parce que actuellement l'environnement congolais est confronté à des graves problèmes, notamment la pollution, les pollutions de l'eau, les pollutions de l'air, les pollutions du sol, le réchauffement climatique, les pertes des espèces florales et fauniques, les pertes de la biodiversité.
Je m'appelle l'élève Mapon Antoine de Salem de la 6e année du Collège des Sacré-Cœur. Un environnement malsain peut causer des maladies respiratoires, cardiovasculaires et des cancers. Il entraîne aussi des problèmes sociaux et économiques tels que l'insécurité alimentaire, des inondations, l'appauvrissement des ressources et une instabilité croissante, les changements climatiques ou les réchauffements.
Autre chose, Monseigneur André Giraud Pindi, évêque de Matadi, a rencontré le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. C'était hier jeudi 4 décembre au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les échanges étaient axés sur la présentation des doléances et des civilités au nouveau bureau de l'Assemblée provinciale par l'évêque de Matadi. Monseigneur André Giraud Pindi et le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale ont aussi échangé sur la paix dans la province du Congo central, surtout dans ces institutions. On écoute Monseigneur André Giraud Pindi, évêque de Matadi.
Je dois d'abord dire que je suis ici au nom des deux autres collègues évêques, l'évêque de Boma et l'évêque de Kisantu, pour parler aussi de la présence, un peu de notre présence dans la province. Comme vous savez, les évêques, nous sillonnons beaucoup dans la province. Nous avons des paroisses partout, dans les villages, dans les endroits reculés. Alors j'ai amené auprès du président de l'Assemblée provinciale, notre président, et de son bureau, entre autres d'abord les doléances de notre population. Ensuite, il fallait présenter aussi les civilités, parce que c'est un nouveau bureau qui a pris ses pouvoirs il y a quelques semaines. Et par respect, il fallait venir présenter les civilités à cette institution la plus haute de notre province. Nous avons aussi parlé aussi de la paix dans notre province, autour des institutions, surtout au regard des événements que nous sommes en train, que nous avons vécu ces jours-ci. Nous avons longtemps échangé sur cela et c'était un échange vraiment très bien. Le président nous a assuré que l'Assemblée provinciale travaille pour les biens de la population, pour les biens de la province. Aussi, c'est l'organe du contrôle de l'exécutif. L'exécutif a des droits aussi à rendre au niveau de l'Assemblée provinciale. Et nous avons acquis cela, cette certitude, ce qui fait que je sors d'ici très instruit. Alors, il était très content parce que d'abord de recevoir un homme de Dieu, il a dit c'est d'abord aussi une bénédiction. Quand un homme de Dieu arrive quelque part, il apporte la bénédiction. Donc cette bénédiction va les aider aussi dans le travail qu'ils doivent faire. Et il a trouvé cette démarche aussi bien parce qu'il dit, vous êtes nos interlocuteurs, vous les évêques, auprès de la population, que vous rencontrez chaque jour, chaque dimanche et dans tous vos déplacements. Donc cela a été bien accueilli et il m'a donné un message pour la population, de rassurer la population que l'Assemblée travaille pour les biens de la population, pour les biens de notre province, pour le développement de notre province.
En bref, à Kinshasa, tête à tête de l'archevêque Félicien Tomboué et le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza, la question de l'état de la route nationale, particulièrement son tronçon des 40 km sur la RN2 au départ des Cabinda vers Mbujimayi a été au centre d'une rencontre le 2 décembre à Kinshasa. Monseigneur Félicien Tomboué a expliqué au ministre que la dégradation avancée de ce tronçon vital constitue une entrave majeure pour les populations locales. Les usagers peinent à circuler, les transports transporteurs enregistrent des pertes et les produits des premières nécessités arrivent difficilement dans les centres urbains. Face à ce constat, le ministre des Infrastructures a assuré que le gouvernement prenait la situation très au sérieux. Il a annoncé par ailleurs avoir mandaté une société chinoise pour rendre le tronçon à nouveau praticable dans un bref délai. Toujours à Kinshasa, on va parler de la protection des enfants en RDC. Le Conseil national de l'enfant a validé depuis mercredi 3 décembre le texte sur la politique nationale de l'enfant. Cet instrument juridique vise à protéger plus de 40 millions d'enfants congolais en situation particulièrement difficile. Interrogé à ce sujet, l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant et master cash du Parlement francophone pour les adolescents salue les avancées significatives enregistrées dans ce secteur. Thierry Kasongo Muyumba rend des hommages au chef de l'État pour son implication dans l'amélioration des conditions de l'enfant. Je vous laisse l'écouter.
Merci beaucoup pour cette question combien importante. Pour nous, avec la nouvelle politique imprimée par le président de la République, magistrat suprême et premier parent de tous les enfants de la République démocratique du Congo, nous nous réjouissons d'abord pour cet instrument juridique parce que déjà la RDC a bénéficié de la loi portant protection de l'enfant au-delà de la convention relative aux droits de l'enfant mise en œuvre au niveau international. Aujourd'hui, nous avons le juge pour enfants, nous avons le tribunal pour enfants, nous avons déjà le parlement pour enfants, mais également le comité des enfants à travers les écoles. Avec cet instrument, je pense que c'est un plus parce que ça va appuyer tous ces secteurs, les secteurs de la protection enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. D'abord, l'identification des enfants, la documentation des enfants, les tracing familial, mais également la médiation plus la réinsertion efficace des enfants qui traînent dans les milieux ouverts. Nous estimons que le Parlement a joué sa part de répartition, mais également les autres parties, notamment les ministères du genre, famille et enfants et les acteurs de la société civile qui s'impliquent à tous les niveaux. Nous remercions toutes les parties prenantes et nous estimons que cet instrument sera mis en œuvre pour que les enfants soient protégés au minimum.
Poursuivons ce journal, toujours à Kinshasa, fête patronale de la paroisse Bienheureuse Annuarité. Vous le savez, l'église du Congo célèbre donc la Bienheureuse Annuarité le 1er décembre de chaque année. À Kinshasa, la célébration avait coïncidé avec le 44e anniversaire de la paroisse dédiée à cette figure ecclésiale située dans la commune de Ngaliema. La paroisse Bienheureuse Annuarité fêtera l'année prochaine son 45e anniversaire d'existence. Le lancement des activités liées à cette célébration du jubilé est prévu ce dimanche. Père Augustin Fouakama, curé paroissial, explique la manière dont le lancement se fera. On l'écoute.
Chaque 1er décembre est une journée de joie pour la paroisse Bienheureuse Annuarité qui célèbre la patronne de la paroisse, la Bienheureuse Annuarité. Cette année, nous l'avons célébrée dans le même esprit, dans la foi, dans la joie. L'Eucharistie a été célébrée le matin à la messe de 6h avec une forte participation de nos fidèles et messe célébrée par les pères Séverin, deuxième vicaire de la paroisse, qu'on célébrait par les pères Jean-Willy, vicaire, les pères Olivier Ndondo, supérieur provincial, et le père Augustin, le curé de la paroisse. Pour cette année, nous n'avons pas eu une célébration assez particulière comme les autres années. Pour la raison simple, cette année, la paroisse célèbre le 44e anniversaire de l'élection canonique. Ce qui fait que l'année prochaine, 2026, c'est le 45e anniversaire. Et ça s'est fait. Voilà pourquoi, le dimanche prochain, le 7 décembre, nous allons vivre ce moment. Nous allons lancer l'année jubilaire, le 45e anniversaire de l'élection canonique. Nous aurons les messes ordinaires, 3 messes comme toujours, mais à chaque Eucharistie, le curé passera pour lancer officiellement l'ouverture de l'année jubilaire, le 45e anniversaire de l'élection canonique de notre paroisse. Et donc à partir de ce dimanche déjà, un calendrier d'activités sera proposé. Nous allons vivre cette année annuarite et au sein de notre paroisse. Nous aurons plusieurs activités et spirituelles et culturelles. Et c'est au mois de juin que nous allons célébrer le 45e anniversaire de notre paroisse.
Quelques nouvelles en bref. La commission des jeunes, coordination décanale du doyenné Saint-Pierre, initiation bilingue à Mouinda du doyenné Saint-Pierre organise une messe d'action des grâces ce dimanche 7 décembre à la paroisse Notre-Dame des Fatima. Cette célébration réunira tous les membres des bilingues à Mouinda du doyenné Saint-Pierre, Ndekoyaya, Abougaza, Bagaza, initiateur et né initiatique pour remercier le Seigneur pour sa protection durant l'année pastorale et le renouvellement des engagements au service du Christ et de son Église, mais aussi de manifester l'unité en tant que pastorale d'évangélisation en profondeur des jeunes par les jeunes dans un esprit de prière, de reconnaissance et de fraternité. Tous sont conviés à y prendre part. La paroisse Cœur Immaculé des Maries fête en ce mois de décembre son 45e anniversaire d'existence. Initialement prévu pour le dimanche 14, la dite célébration aura effectivement lieu le 21 décembre. Changement des dates intervenues en fonction de l'agenda chargé du cardinal Fridolin Ambongo qui présidera cette Eucharistie d'Action des Grâces à partir des 9h. L'équipe organisatrice de ce jubilé précise que les invitations déjà lancées gardent leur valeur. Information livrée à votre radio par Jean-Léonard Tedika. Il est chargé paroissial des communications. On va parler autre chose. Dépôt des mémos auprès des autorités politiques du Haut-Katanga. Ce vendredi 5 décembre 2025, une délégation du lycée Lubusha a déposé un mémo aux autorités provinciales, comme dit, en vue de trouver des solutions à la persistance de l'exploitation minière aux environs de leur institution, accompagnés par les autorités ecclésiales sous l'égide de Mgr Denis Moto, représentant de l'archevêque. Les autorités sociales, quelques parents, ont lancé leur cri d'alarme devant le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Détail, Étienne Diba.
C'est le Lubusha par les activités minières. Les élèves déposent une pétition auprès des autorités. Situé au cœur de la cité minière de Lubusha, le lycée Lubusha est toujours menacé par l'exploitation. Face à ces dangers qui le guettent, les élèves de cette prestigieuse école catholique pour jeunes filles ont exprimé leur mécontentement auprès des autorités. Conduite par Mgr Denis Moto, vicaire général et coordonnateur provincial des écoles conventionnées catholiques, cette délégation s'est rendue d'abord à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
Nous exigeons réparation pour les préjudices subis. Nous voulons simplement apprendre dans la paix, la sécurité et le respect. Nous vous appelons à sauver notre avenir. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, nous n'avons ni armes ni pouvoir politique. Notre seule force est notre voix. Aujourd'hui, nous la levons pour demander justice. Demain, si rien n'est fait, il sera trop tard.
Recevant les mémos des élèves de Lubusha, l'honorable Michel Kabouemwamba a promis de s'investir pour qu'une solution soit trouvée.
Demain, c'est vous qui allez être des Souminois, c'est vous qui allez être des Kaikwamba, c'est vous qui allez être des Fifimasuka, c'est vous qui allez être des Lorian Mwewa, c'est vous qui allez être donc des Joyce Tunda de demain. Alors voilà les pourquoi nous voulons vraiment que vous soyez dans de très bonnes conditions. C'est vous qui allez être les députés ici.
Après l'Assemblée provinciale, la délégation s'est rendue au gouvernorat du Haut-Katanga pour la même démarche. Martin Kazembe Shula, gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, a promis de s'impliquer dans cette affaire.
Nous allons l'examiner. Et notre rôle, c'est de vous accompagner.
Construite il y a plus de 70 ans, le lycée Lubusha est l'une des prestigieuses écoles de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un imposant bâtiment construit en pierre précieuse offert par le couple Jules Cousin et Marguerite Blaise Cousin de nationalité française et belge. Lubumbashi, Étienne Diba, Radio Maria.
Journée nationale de l'arbre, on en parle toujours à Lubumbashi. Cette célébration était effective ce 5 décembre dans l'archidiocèse de Lubumbashi à travers une sensibilisation liée au plantage d'arbres. Le mouvement Laudato Si et la coordination des écoles conventionnées catholiques étaient à l'œuvre pour appeler les élèves des différentes écoles ciblées à mettre en valeur l'arbre qui est une source de survie des écosystèmes. Il s'agit des écoles suivantes: l'Institut Matoléo, l'Institut Technique Aodari, l'Institut Maïcha Karaïa, l'EPE Tanguin Apo, Complexe scolaire Nyumba, EPE Toussaï Diani, du lycée Tchondo, de l'Institut Imara Boustani et à Elimo, et l'école Saint-Esprit de la paroisse portant le même nom. Détail dans ce reportage que signe Jean-Baptiste Pétémoya.
5 décembre n'est pas qu'une simple journée pour le mouvement Laudato Si Grand Katanga. Depuis quelques années déjà, la célébration de l'arbre est devenue une tradition dans l'archidiocèse de Lubumbashi, avec un accent particulier sur la sensibilisation des élèves et la mise en terre de quelques plantules. Parti du parvis de la cathédrale, les membres de la coordination des écoles conventionnées catholiques et ceux du mouvement Laudato Si ont remis des plantules à quelques élèves visités.
C'est un sapin de bois qui, bien au-delà de ses vertus de bois en termes de lignine, il est aussi très utile dans la production. En fait, il repousse les insectes. Déjà, vous remarquerez que dans certains cimetières, on a l'habitude de planter le phyllaos. Phyllaos qui est une plante qui est vraiment appelée sapin, mais c'est un phyllaos.
Un spectacle hors du commun a été observé au lycée technique Odari, après l'école Matéléo, située dans la commune Roachi. Le lycéen accueille deux arbres baptisés Auxilium, en référence au jubilé des 100 ans de fille de Marie Auxiliatrice.
Nous venons d'apprécier le message de l'ingénieur agronome et de notre représentante, la sœur Sylvie Thon. Ainsi, ces deux plantes ayant un rôle écosystémique dans notre environnement peuvent recevoir une deuxième nomenclature. Nous les nommons plantes Auxilium, en référence des filles de Marie Auxiliatrice.
À cette riche sensibilisation de l'année 2025, les parlements environnementaux étaient institués pour les différents cercles écologiques des écoles visitées, a rassuré la sœur Sylvie Toumba, point focal Laudato Si, Grand Katanga. Depuis Lubumbashi, Jean-Baptiste Pétémoya pour Radio Maria.
Et pour terminer, parlons du décès du docteur Chantal Nzeyi. Les témoignages fusent autour de la présidente honoraire de Radio Maria. Chantal Nzeyi a, dès son vivant, assumé plusieurs responsabilités. D'abord médecin de son état, présidente diocésaine des Carmes, jadis club des amis de Radio Maria, et secrétaire de la Ligue des football féminins. Pour certains, l'illustre disparu s'est distingué par son dynamisme à conduire la Carme et sa facilité à aborder les gens. Écoutez les témoignages que nous livre Guy Pascal Sido, auditeur des Radio Maria.
Docteur Chantal reste une icône au sein de cette radio. En tout cas, je ne sais qui pourrait dire contraire à moi, Guy Pascal. C'est presque comme maman Micheline, qui est aujourd'hui président de cette radio. Ce sont des femmes auxquelles ils ne cessent de laisser leur pierre qui se voit au vu de tout le monde. Maman Christine, disons, docteur Chantal, pour moi, je ne sais comment je pourrais manquer des mots à dire quelque chose en lui très positif, parce que c'est une femme combattante. Elle a beaucoup fait pour cette radio. Et si vrai aujourd'hui les Carmes éparpillés non seulement ici à Kinshasa mais à travers la République démocratique du Congo en particulier, mais beaucoup plus en général dans le monde, si nous avons une certaine grâce ou encore force de travailler pour l'honneur de la Vierge Marie, de Dieu, et c'est à travers aussi cette dame. Il nous a beaucoup réconforté à beaucoup de choses, je vous assure mon frère, et je peux donner l'exemple. Souvent quand cette radio avait eu de légers problèmes techniques, souvent maman Chantal docteur, elle se mettait debout. Moi, parfois, je l'appelais une technicienne de cette radio.
Voilà, nous rappelons que la veillée mortuaire en l'honneur du docteur Chantal est prévue ce soir même à la paroisse Saint-Augustin et l'enterrement, quant à lui, interviendra ce samedi 6 décembre 2025. Paix à son âme. C'est la fin de ce journal. Vous nous avez suivis. Nous vous disons merci. Merci à Gaylor Kamangou qui nous a réalisé. Merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Ce journal vous a été présenté par Jonathan Tamboué que je suis. Merci de rester toujours fidèle à l'écoute de nos différents programmes. Au revoir.
Techniciens et bénévoles de la Radio Maria pour votre contribution irremplaçable. Que Dieu vous les rende au centre.